travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être.
Madame Auguste, un chevalier nommé Vénus Pollio.
Qui nous dit-on avec coutume? C'est Pline qui nous raconte ça, c'est né qu'on reparle aussi. Il avait coutume de jeter aux murènes, vivants, les esclaves auxquels il avait des fautes à reprocher. Et parfois de simples peccadilles.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui sera sombre, consacrée à la torture dans l'Antiquité romaine. L'actualité de ce sujet s'impose malheureusement à l'attention contemporaine. Amnesty International vient de montrer que la pratique de la torture est en plein essor, l'ayant rencontré, constaté, débusqué dans 141 pays de la planète, dont 79 des 155 États ayant ratifié la Convention des Nations Unies qui l'a condamnée radicalement en décembre 1984 comme tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Une convention qui prolongeait la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Amnesty a relevé, en regardant vers les États-Unis, que la torture a pu paraître normalisée, je cite, par la guerre contre le terrorisme et glorifiée par des séries télévisées à succès telles Homeland ou antérieurement 24 heures chrono. La torture concerne toute société au tréfonds d'elle-même, ses pulsions, sa vision de l'homme et de ses droits parmi les tensions qui la travaillent, ses préceptes religieux et, en somme, au sens le plus élevé et le plus large du terme, son éthique. Mon invité est Yann Rivière, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, ancien directeur des études à l'École française de Rome, qui a publié, voici une dizaine d'années, un ouvrage intitulé « Le cachot et les fers » et sous-titré « Détention » et coercition à Rome. Et il a choisi d'y inscrire comme épigraphe cette citation d'Edgar Poe que voici « Il se racontait sur ces cachots d'étranges choses. Je les avais toujours considérées comme des fables, mais cependant, si étranges et si effrayantes qu'on ne pouvait les répéter qu'à voix basse. »
Sonné à ma porte, je suis sorti de mon lit. Ils sont entrés dans ma chambre, ils m'ont dit de m'habiller. Le soleil par la fenêtre ruisselait sur le plancher. Ils m'ont dit, mets tes chaussures, on chantait sur le palier. J'ai descendu les marches entre leurs deux uniformes, adossé à une borne, un clochard se réveillait. Ils me donneront la fièvre, la lumière dans les yeux. Ils me casseront les jambes à coups de souliers ferrés. Et ils m'ont traîné au loin dans une grande salle rouge. Et ils m'ont jeté dans le coin comme un meuble, comme un chien. Ils m'ont demandé mon âge, j'ai répondu 27 ans. Ils ont écrit des mensonges sur des registres pesants. Ils voulaient que je répète ce que j'avais chanté. Il y avait une mouche sur la manche du greffier. Qui vous a donné le droit de juger votre prochain. Votre robe de drap noir ou vos figures de deuil. Ils m'ont remis dans la cage, ils reviennent tous les jours. Ils veulent que je leur parle, je me moque des discours. Je me moque des menaces, je me moque de vos coups. Le soleil vient à 7 heures, m'éveiller dans mon cachot. Un jour, avant le soleil, quelqu'un viendra me chercher. On coupera ma chemise, on me liera les poignets. Si vous voulez que je vive, mettez-moi en liberté. Si vous voulez que je meure, à quoi bon me torturer? Car je ne dirai rien, je n'ai rien à dire, je crois ce que j'aime, et vous le savez bien.
Yann Rivière, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson s'intitulait « Le politique », elle était due à Boris Vian et Albert Assayag, interprétée par Mouloudji en 1974. On est là dans les années 1950, dans le contexte de la guerre d'Algérie, évidemment. Je pense que vous avez là déjà un personnage qui incarne l'homme torturé.
Oui, tout à fait, mais au regard d'une pensée assez différente de celle des anciens. La fin de la chanson évoque le mot de liberté. Libertas pour les Romains, c'est le système républicain, c'est-à-dire un ensemble d'institutions qui garantissent l'intégrité du prévenu devant les tribunaux. Donc la liberté pour les Romains, c'est en effet l'exemption de la torture pour les hommes libres.
Je voudrais avant toute chose vous interroger sur les sources que nous pouvons avoir. Comment connaissons-nous cette réalité concrète de la torture, des mauvais traitements à l'époque de Rome, la République d'un côté, l'Empire ensuite? Nous allons voir qu'il y a des différences. Comme épilogue, je citais tout à l'heure l'épigraphe que vous avez choisi, qui est d'Edgar Poe. Vous avez comme épilogue cité Tchekhov, qui disait dans l'île Sakhaline, c'était des notes de voyage, qui disait « Nulle part le passé ne s'oublie aussi vite en raison de l'extrême variabilité de la population pénitentiaire et, pour une part, en raison de l'absence d'archives dignes de ce nom dans les bureaux. Les événements d'il y a 20 ou 25 ans sont considérés comme du lointain passé, totalement oublié et qui est perdu pour l'histoire. » En l'occurrence, nous sommes 20 ou 25 siècles en arrière. Comment ces événements peuvent-ils n'être pas perdus pour l'histoire?
Telle était l'intention précisément de cette citation que de mettre en perspective le monde de l'Antiquité en sachant que toutes les archives ou presque ont disparu. Alors pour le sujet qui nous occupe, celui de la torture, elle est mentionnée régulièrement dans les sources littéraires par des auteurs qui ne s'en émeuvent pas plus que cela, qui l'évoquent comme un phénomène du quotidien. Donc depuis l'époque républicaine, depuis le théâtre de Plaute, si l'on veut, jusqu'à la littérature la plus tardive, la torture, des scènes de torture sont signalées, d'autant plus que la chronique judiciaire des grands procès politiques intéresse beaucoup nos auteurs. Bon. Et à côté de cette littérature des écrivains de l'Antiquité, nous disposons du corpus de compilation du droit romain élaboré par les Byzantins à l'époque de Justinien. Et dans le digeste, vous avez un article consacré à la torture qui précise toutes ses modalités.
Écrivains, juristes, ce sont vos sources. Et d'un côté comme de l'autre, on est sensible, notamment en vous lisant, Yann Rivière, au fait qu'il y a l'acceptation de la torture comme une sorte d'évidence. Il n'y a pas, en cette période de l'histoire de l'humanité, la remise en cause au quotidien. Il n'y a pas l'idée que une sorte de morale qui surplomberait les sociétés imposerait de la refuser.
Aucunement, je crois qu'il faut se défaire, évidemment, d'une vision, la nôtre, héritée du siècle des Lumières, des droits de l'homme, lorsqu'on veut essayer de comprendre les réalités de la torture pour les anciens et éventuellement percevoir chez eux, occasionnellement, des réticences qui ne sont pas motivées par les mêmes préoccupations que celles des droits de l'homme.
Néanmoins, on est sensible à la différence de comportement entre l'époque de la République et celle de l'Empire. Il y a des changements importants, j'aimerais que vous les retraciez pour nous.
Le changement est fondamental, c'est une rupture dans l'histoire de la Rome antique que ce passage de la République à l'Empire, en dépit de tous les faux-semblants du fondateur de l'Empire lui-même, dont on a beaucoup parlé récemment à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée.
Auguste.
Voilà. Notre contemporain, Yann Thomas, a montré, contre une grande partie de l'historiographie de ces dernières décennies, combien l'on pouvait mesurer cette rupture accomplie au moment de l'avènement de l'Empire par rapport à la République, en s'intéressant aux questions de droit pénal. Derrière des dehors constitutionnels de rétablissement de la République, le premier empereur, le fondateur du Principat, a bouleversé complètement les procédures criminelles et ce que Claude Nicolet avait autrefois dans le métier de citoyen, à savoir que la citoyenneté à Rome, c'est d'abord un habeas corpus, et c'est donc, d'abord une intégrité du prévenu devant les tribunaux.
Donc là, une ressemblance avec aujourd'hui, en dépit de l'absence de droit de l'homme, le citoyen, par opposition naturellement à l'esclave, nous verrons cela tout à l'heure, le citoyen ne devait pas être mis à la torture s'il était accusé, au moins jusqu'à Octave Auguste.
Absolument. C'est un principe qui perdure. Une fois qu'on a reconnu la rupture fondamentale introduite par Octave Auguste, la rupture fondamentale née de l'avènement d'une autocratie, il faut bien sûr considérer que les contemporains ont encore un système de valeurs ancien par lequel on réprouve certaines conduites que l'on pourrait qualifier sous le terme de violence judiciaire.
Dans Cicéron, on voit par exemple le refus explicite de la torture, jusqu'à penser que c'est presque une des manières de distinguer le citoyen des autres, c'est-à-dire en particulier des esclaves.
Absolument. Donc Cicéron, dans son célèbre texte d'accusation contre Verrès, ne cesse de multiplier les griefs dans différents registres à l'égard de ce prêteur de Sicile corrompu et violent. Mais pour ce qui concerne les supplices, qui concerne l'exercice de la justice par ce gouverneur, ce que lui reproche principalement Cicéron, c'est d'avoir mis à mort, torturé éventuellement, des citoyens romains qui proclamaient précisément leur statut de kiwis, de citoyens, et qui n'auraient jamais dû être soumis au traitement auquel ils ont été soumis. Ce qui n'empêche pas, vous évoquiez les esclaves, qu'au même moment, Cicéron, sans doute, pouvait se conduire très brutalement à l'égard de ceux qui constituaient sa familia, des serviteurs qui constituaient sa familia.
On pouvait même, exceptionnellement, il n'est pas inutile de le dire dans une émission telle que celle-ci, regarder la torture du côté des citoyens avec quelque chose comme une légèreté. Vous avez repéré à Oxford une fresque venue de Pompéi qui, à cet égard, est frappante.
Absolument. C'est le seul moment peut-être de notre sombre émission au cours duquel on peut s'amuser de voir représenter sur cette fresque venue de Campanie Psyché, l'âme, ligotée, assise, en pleurs, torturée par trois cupidons qui la persécutent à coups de tison.
Alors quels sont les différents motifs qui peuvent faire accepter qu'il y ait des interrogatoires de cette nature? Je veux dire par torture des corps.
La torture des corps émerge, je suis obligé d'y revenir, au moment où s'élabore le régime autocratique impérial. C'est précisément le moment où est introduit dans le fonctionnement de la justice criminelle que l'on appelle la procédure d'enquête qui donnera l'inquisitio, cette inquisition que redécouvrira plus tard le Moyen-Âge. À l'époque républicaine, les procès criminels, ceux que l'on découvre sous la plume de Cicéron, relève en revanche de l'accusatio, du système accusatoire par lequel la condamnation est obtenue à l'issue d'une joute entre les parties. Avec l'Empire, tout change, puisque si les références subsistent à cet ancien système accusatoire, l'Inquisition autorise désormais un juge tout-puissant, pourrait-on dire, à enquêter, à établir la vérité qui apparaît dans les textes juridiques comme une véritable obsession de la part du législateur.
Donc on voit dès ce moment-là une double finalité à la torture. D'un côté, punir celui qui a été coupable. D'autre part, défendre la société par une exemplarité.
Je dirais que, pour reprendre le terme exact de la torture chez les Romains, quaestio.
La question, ça a donné
la question qui a donné la question. C'est par ce terme, précisément, que les Romains désignent la torture, qui est avant tout et essentiellement pour eux un moyen de preuve, un moyen d'établir des faits. un moyen de « eruere veritatem », disent les textes, d'arracher, d'extorquer
l'aveu.
La vérité, l'aveu, la confessio, exactement, du prévenu. Donc c'est plus un moyen de preuve, un élément de procédure, que, en dépit de sa violence et du maltraitement qu'elle suppose, une forme de peine ou de châtiment. Vous parliez de défense de la société, l'expression ne serait pas venue sans doute à la bouche d'un Romain. En revanche, l'exemplarité est à l'évidence une préoccupation majeure des Romains. Et la torture est publique, ce qui ne sera plus le cas au Moyen-Âge, ou ce qui n'est plus le cas à l'époque de la chanson de Boris Vian qu'on entendait tout à l'heure, où un jeune homme est jeté brutalement dans une petite pièce où il va être torturé. Les Romains le font en public parce que c'est un divertissement et parce que, sans doute, ils visent par là une forme d'exemplarité.
Et la torture est pratiquée dans le prétoire, au tribunal, devant les juges, où on apporte tous les instruments de cette pratique.
La torture s'exerce durant l'instance, dans le tribunal, éventuellement parfois derrière un rideau qui peut être dressé entre le public et le juge, mais généralement en présence du public. Et lorsque nous évoquions les sources tout à l'heure, j'ai omis de mentionner un corpus essentiel pour la connaissance de ce qu'est la torture, à savoir les actes des martyrs. Les actes des martyrs, littérature chrétienne concernant les persécutions, sont des actes de procès qui reflètent cette avancée de l'établissement de la vérité au fur et à mesure que progresse l'instruction.
Un violent contraste avec notre temps, quelque souillé qu'il soit par une pratique généralisée de la torture, je le disais tout à l'heure, c'est que celle-ci, désormais, est essentiellement faite dans l'ombre des cachots. Et on l'a bien vu, par exemple, à l'occasion de ce qu'on a pu savoir de Guantanamo, lorsqu'un certain nombre de prisonniers en sont sortis. Je n'ai pas l'intention de concentrer l'attention contemporaine sur les États-Unis, mais évidemment, Guantanamo, où ont été emprisonnés beaucoup de gens sans procès, a d'autant plus frappé que c'était le choix d'une grande république et d'une grande démocratie. Écoutez ce témoignage de Nizar Sassi au micro de Xavier Pestugia. On est dans le cadre de l'émission Cosmopolitaine de Paul Ajac le 21 mai 2006.
Comment ils vous appelaient ? C'est-à-dire, ils vous appelaient par vos prénoms ? Vous aviez des surnoms ? Comment ça se passait ?
On avait des numéros. C'est-à-dire que pour moi c'était 325 et chaque personne était appelée par son numéro en fait.
Alors comment se passaient les interrogatoires ? Parce que vous avez subi plusieurs.
Il faut savoir qu'il y a un traitement inhumain pour tout le monde. Et pour que les personnes qui sont soupçonnées d'avoir d'informations, ces personnes-là ont un traitement spécial. Et bon, petit exemple comme ça, ils ont une salle qu'ils appellent le paradis. Et c'est une salle en fait insonorisée avec une quinzaine d'enceintes. Et ils laissent des personnes dedans 3-4 jours avec différentes musiques en fait. Et c'est super violent. Pour info, avant de partir, j'ai laissé un gars qui avait subi ce programme-là. Avant que je parte, il n'entendait plus, il ne voyait plus en fait. Ben moi, on va dire que j'ai suivi les conditions, entre parenthèses, normales des détenus. On me traînait avec les chaînes, c'est-à-dire que ça me déchirait la peau des pieds et des mains. On a essayé énormément de médicaments sur moi.
Vous saviez quels médicaments ?
Non. Ils venaient, ils avaient des médicaments, et après ils radaient les symptômes que ça faisait. Et si on ne coopérait pas, ben, ils le faisaient de force en fait. Bah, une fois, il y avait un détenu qui était à côté de moi, il l'avait forcé à prendre des médicaments. Et d'un coup, son cœur battait, il commençait à crier. Et tout son corps s'est rempli de boutons. Et il criait, il se grattait. Jusqu'après, ils sont venus avec une grosse seringue, ils l'ont piqué, il s'est calmé. Et après, ils sont venus lui demander, mais c'est quel médicament qui t'a fait ça ? On était en fait comme des lapins dans des cages en fait.
Quand vous posez des questions, c'était quoi les questions ?
Bah, au début, c'était forcément sur le camp d'entraînement, sur est-ce qu'il y avait soit des possibles projets d'attentat. Mais après, c'était plus des questions ciblées sur le parcours. On montrait des photos des gens qui étaient avec moi à Guantanamo. Est-ce que tu connais telle personne ? Tout est basé sur la torture psychologique. Tout est basé pour faire craquer la personne. Et, c'est une science. C'est pas n'importe qui fait ça.
Oui, parce que l'important, évidemment, c'est de voir un petit peu les failles de chaque personne.
Exactement. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Les Américains, il ne faut jamais leur dire que vous avez mal à tel endroit ou tel endroit. Parce que, pour un exemple tout bête, il y a une personne qui ne parlait pas aux Américains là-bas et il se trouvait qu'il avait une rage de dents. Ben, les Américains se sont servis de cette rage de dents pour l'obliger à coopérer avec eux.
C'est-à-dire ils ont fait comment ?
C'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé la dent, mais ils ne l'ont pas anesthésié. Et le mec, il souffrait. Ils lui ont dit, c'est ou tu collabores avec nous et on te soigne petit à petit, ou sinon, on te laisse comme ça.
Alors Yann Rivière, cette archive vous paraît faire écho à ce qui se passait dans l'Antiquité ou est-ce très différent ?
Évidemment, les méthodes dans le détail nous éloignent beaucoup de l'Antiquité. Sur deux points néanmoins, ce témoignage me semble éclairer ou entrer en relation avec ce que l'on observe dans la Rome antique. D'une part, comme vous le rappeliez, les États-Unis sont une grande démocratie. Ce qui s'est passé à Guantanamo est illégal et relève de ce que l'on pourrait appeler le régime d'exception. Les Romains le connaissaient aussi à l'époque de Cicéron avec le senatus consult ultime, hein, qui était un moyen, dans des circonstances très particulières de menaces sur la cité, l'affaire Catilina par exemple, de lever finalement toutes les clauses de garantie de l'intégrité des individus.
Des citoyens en tout cas.
Des citoyens. Ça c'est le premier point, donc le régime d'exception qui ouvre la porte à des pratiques par ailleurs refusées. Et le deuxième point, c'est lorsque le témoin parle de science, de la torture, ou en tout cas des pratiques qu'il décrit, nous sommes exactement dans le registre lexical des Romains, puisque la torture, pour eux, la quaestio, vise à veritatem scire, à connaître la vérité. Et les textes de loi d'époque du 2e ou du 3e siècle après Jésus-Christ, les textes des jurisconsultes, rentrent dans les détails les plus précis, presque psychologiques, pour savoir comment établir cette vérité et se garder de tout mensonge. Ou bien le prévenu est trop faible et cédera vite à la torture en alléguant des faits qui sont faux. Ou bien il résiste jusqu'au bout et il faudra alors augmenter la pression. Bref, tout cela relève en effet d'une science.
C'est comme si on avait aujourd'hui des descriptions précises de la manière de torturer dans le code pénal.
Absolument, absolument. C'est exactement ce qui apparaît. Je suis obligé de distinguer ici deux registres de sources. C'est-à-dire que, assez froidement et avec ce que l'on pourrait appeler une retenue, les jurisconsultes, donc ces prudents connaisseurs du droit qui ont livré leurs commentaires, qui ont fabriqué ce que nous appelons le droit romain, entrent dans des détails avec néanmoins une économie de mots. Là où la lecture de la loi devient plus difficilement supportable, c'est lorsque à ces jurisconsultes se substituent les membres de la chancellerie impériale à partir du 3e siècle, du 4e siècle. Et là, les constitutions que l'on peut lire encore aujourd'hui, rassemblées dans le code justinien ou code théodosien, sont assez effrayantes par les détails qu'elles donnent sur l'accomplissement de la torture.
Il y a un point commun avec ce qui semble se passer aujourd'hui dans les geôles des pays les plus barbares, c'est le jeu de l'inquiétude, la crainte, la peur qui peut naître, l'angoisse qui peut naître chez les victimes potentielles des tortures, à voir tous les instruments de leur souffrance potentielle. Il y a une lettre très frappante de Sénèque au 1er siècle après Jésus-Christ à son ami Lucilius. Il écrit ceci: « Rien n'ébranle autant les âmes que les menaces de la force au service d'autrui. C'est que beaucoup de bruit et de tumulte accompagnent sa venue. Les calamités naturelles, l'indigence, la maladie se faufilent en silence. Elles ne frappent ni l'œil ni l'oreille de terreur. Dans l'autre catégorie, le fléau s'accompagne d'un immense cortège. Il a le fer et les feux autour de lui, et les chaînes et une cohue de bêtes dressées à éventrer des humains. Représente-toi un cachot, des croix, des chevalets, le croc des gémonies, le pâle dont on traverse l'homme, qu'on fait ressortir par la bouche, les cartèlements au moyen de chars qu'on lance dans des directions opposées, la fameuse tunique enduite et tissée de matières inflammables, en un mot, toutes les inventions de la férocité. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si l'objet le plus capable d'éveiller la crainte est celui qui découvre, dans une grande diversité, des apprêts terribles. » Fin de citation. Je ne veux pas être complaisant dans cette émission, mais il fallait tout de même faire sentir tout ce que l'imagination dévergondée de l'homme faisant souffrir un autre homme peut, à cet égard, inventer au service de cette barbarie-là.
En effet, ce texte de Sénèque reflète ce que l'on pourrait appeler le quotidien des Romains. Le grand historien américain Peter Brown a parlé d'école de violence à propos de l'esclavage, c'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, les jeunes garçons en particulier sont amenés à corriger les esclaves, à assister à des scènes qu'ils reproduiront eux-mêmes par la suite. La peine, si on peut établir une fonction des peines dans l'Antiquité, sa fonction principale, c'est sans doute, on le disait déjà tout à l'heure, l'exemplarité. Créer l'effroi pour une éventuelle dissuasion.
Je songeais au livre fameux de Henri Alleg en vous écoutant, La question, qui s'appelle précisément La question.
C'était ce militant communiste qui avait été torturé par l'armée française au moment de la guerre d'Algérie et dont le livre qui portait ce titre a beaucoup compté dans l'évolution des sensibilités en France, comme aussi d'ailleurs celui de Pierre-Henri Simon contre la torture. Allègue montre bien qu'il y a une opposition entre l'Algérie où il pouvait paraître utile de faire parler de la torture pour effrayer ceux qui pourraient éventuellement la subir, et la métropole où au contraire il fallait la dissimuler.
En Algérie, la torture vise à effrayer dans un même local les personnes que l'on y conduit. Je crois me souvenir que dans les premières pages du livre, il évoque précisément ces nuits où il est impossible de dormir en raison des cris qu'il entend, où il est impossible de dormir par la peur simplement des exécutions qui vont peut-être avoir lieu le lendemain. Et en effet, au même moment dans la métropole, il n'est pas du tout question de révéler quoi que ce soit de ces pratiques ou de les justifier. Alors ça, c'est une grande distinction avec Rome, où la torture est publique et où elle se justifie aisément et où je ne sache pas que quelque auteur que ce soit soit véritablement opposé à ces pratiques.
En particulier, il y a le fait de jeter les condamnés aux bêtes. Alors là, on est vraiment dans le spectacle collectif.
Absolument, c'est plus la torture, j'y insiste, parce que les auteurs chrétiens eux-mêmes le disent. C'est-à-dire que le spectacle de l'amphithéâtre avec toutes ses horreurs ne relève pas du tout de la même logique que celui du tribunal où doit s'accomplir l'établissement de la vérité. Souffrance ici et là, projet et intention du juge différents dans les deux cas.
Pour revenir un instant à la question de l'évolution de la République à l'Empire, vous êtes de ceux, Yann Rivière, qui pensent qu'il y a une véritable coupure au moment où César puis Auguste installent le pouvoir impérial, ou au contraire une continuité jusqu'à Auguste, le citoyen romain en principe est protégé contre la torture et puis progressivement elle est acceptée pour le faux, pour les spéculations, pour l'adultère, pour un certain nombre de motifs. Et puis ensuite le comportement de lèse-majesté devient dominant, comme on le voit d'ailleurs dans Cinna de Corneille à propos d'Auguste, lorsqu'il décide la clémence, bien que Maxime et Cinna aient offensé sa confiance.
Le dernier siècle de la République romaine est un spectacle d'horreur. On trouve des violences depuis l'assassinat des Gracques jusqu'à la bataille d'Axium qui ramène la paix au profit d'un seul.
Dans Corneille, Auguste dit « Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Quoi tu veux qu'on t'épargne et n'a rien épargné, songe au fleuve de sang que ton bras a versé. »
Tous les auteurs, tous les anciens parlent de cette dichotomie entre le jeune Octave, pendant les guerres civiles, le proscripteur, celui qui ne recule devant aucun massacre, je pense à la guerre de Pérouse qui a suivi de peu la bataille de Philippe contre les Césaricides, où de véritables sacrifices collectifs auraient eu lieu sur des autels dédiés à César.
C'est le moment d'en parler, puisqu'on est en train de célébrer le second millénaire d'Auguste qui surgit, y compris dans le métro.
Absolument, dans le métro, on peut lire des paroles attribuées à Auguste, généralement empruntées au discours officiel de son époque. Je proposerai d'ajouter une affiche où je cite ici une constitution d'Auguste lui-même. « Je crois qu'elle est très efficace, il parle de la torture, pour rechercher la vérité, ad requirendam veritatem, et qu'il faut s'en servir. » Ajoutons une affiche dans le métro, pour bien comprendre de quelle époque on parle et ce qu'est la fin de la politique, la fin d'une république et l'avènement d'une monarchie.
On va suggérer ça au président de la RATP. Donc il y a un développement de la torture sous l'Empire dont nous avons un grand nombre de témoignages avec l'impression que l'on éprouve à lire ces textes des historiens ou des témoins qu'elle n'est pas dépouillée d'un certain sadisme aussi, non ?
Assurément, mais ça je pense que le sadisme est présent à toutes les époques et que les Romains de la République n'étaient pas meilleurs que ceux de l'Empire dans le registre de la cruauté ou de la violence. Simplement, il y avait sous la République un système juridique et institutionnel qui semblait refléter une préoccupation d'intégrité du prévenu. Un seul exemple montre que tout change en quelques décennies, en quelques années peut-être, sous le règne d'Auguste et de son successeur Tibère, lorsque par exemple, pour pouvoir torturer un esclave contre son maître, on procède à cette fiction d'achat par le fisc de l'esclave en question pour pouvoir le torturer sans enfreindre la loi qui interdit normalement qu'un serviteur soit soumis à la torture contre son maître.
Alors voilà que nous abordons un autre chapitre de notre sujet sur la torture dans l'Antiquité romaine. C'est la grande question des esclaves. Et pour montrer que, là encore, le passage de la République à l'Empire est un tournant, je crois qu'on peut évoquer une anecdote qui est restée célèbre. C'est la protestation d'Auguste, Octave Auguste, allant dîner chez un ami et qui réprouve la manière dont cet ami va punir à ses yeux injustement un de ses esclaves. Pour évoquer cet épisode, j'ai choisi un morceau d'un cours d'un professeur de la Sorbonne qui a eu son heure de gloire, André Aymard, qui la raconte devant un public attentif d'étudiants. On est en 1958 et d'ailleurs c'est intéressant qu'on soit à ce moment-là puisque c'est dans le climat là encore de la guerre d'Algérie. Plusieurs professeurs de la Sorbonne se sont élevés en ces années-là avec beaucoup de vaillance contre les pratiques qui se développaient à l'occasion de cette guerre. Écoutons André Aymard.
Nous connaissons aussi, c'est un cas à peu près comparable, le cas d'un ami d'Auguste. Nous ne savons pas exactement quand ça se place. J'ai dit que la frontière chronologique fin de la République, début de l'Empire pouvait être assez flottante à cet égard. Un ami d'Auguste, un chevalier nommé Vénus Pollio.
Qui, nous dit-on, avait coutume, c'est Pline qui nous raconte ça, c'est Sénèque qu'on reparle aussi, il avait coutume de jeter aux murènes, c'était des poissons qui mettaient à mort, qui mangeaient les corps humains, de jeter aux murènes vivants les esclaves auxquels il avait des fautes à reprocher, et parfois de simples peccadilles. Si bien qu'un jour, Auguste étant invité chez Vénus Pollion, un esclave cassa un vase. Le maître donna l'ordre qu'on le jeta aux murènes. L'esclave se jeta aux pieds d'Auguste. En le suppliant, Auguste s'indigna de l'acte de son ami et de son hôte. Il pardonna l'esclave et il fit briser tous les vases de la maison de Pollion. Cette anecdote, bien moralisante, nous montre quelles étaient les limitations au plein pouvoir, à la toute-puissance du maître sur son esclave. Des limitations uniquement morales, rien de juridique.
Ça vous paraît juste, Yann Rivière, cette opposition entre le droit et la morale? On a parfois le sentiment du contraire.
Écoutez, telle qu'elle est rapportée par Sénèque, cette anecdote peut en effet éclairer une forme de morale. Telle est la préoccupation du philosophe. Si l'on essaie aujourd'hui de réfléchir sur son sens, il est beaucoup plus profond que celui d'une anecdote moralisante. On tient là, je crois, au travers de cet épisode, le signe du changement d'époque. Ce n'est pas à toute époque, j'y reviens, de l'histoire de Rome, que le maître pouvait être empêché de mettre à mort ou de torturer son esclave. Ce n'est qu'à partir du moment où émerge la figure du souverain, de l'empereur, qu'une telle limitation de la violence domestique apparaît. Pour faire bref, on pourrait parler de monopole de la violence par l'État. Pour faire bref, dis-je, parce que le processus s'est étalé sur les siècles.
Jusque-là, on autorisait sous la République assez aimant le maître à mettre à mort cette res mobilis, cette chose mobile qu'était l'esclave.
C'est pourquoi je crois que cette anecdote a une valeur juridique profonde, puisque précisément res mobilis, chose mobile, telle est la définition de l'esclave, ce qui signifie que le maître initialement pouvait en faire ce qu'il voulait. Il suffit de songer aux reproches adressés au maître à l'occasion des grandes révoltes telles que celle de Spartacus à l'époque républicaine. On pourrait nuancer brièvement pour dire que le monde des esclaves est un monde très hétérogène et que probablement que le berger des Abruzzes n'est pas traité de la même façon que le précepteur d'un fils de sénateur à Rome.
Qui peut être affranchi éventuellement d'ailleurs.
Qui peut être affranchi éventuellement. Mais le jour où le bibliothécaire de Cicéron, un esclave donc, est parti en emportant deux ou trois des livres auxquels Cicéron tenait beaucoup, l'orateur fait tout pour essayer de retrouver cet esclave et lui promet un sort peu enviable. Sous la République, il n'y avait que trois domaines qui permettaient, par exception, de torturer l'esclave contre le maître et de recevoir la dénonciation du serviteur. C'était trois domaines qui intéressent la vie de la cité dans son ensemble. La nonne, donc le ravitaillement, un maître qui retiendrait dans ses dépôts, dans ses silos, du blé pour faire monter les cours, pouvait être dénoncé.
Accapareurs, comme on dit au XVIIIe siècle.
Les accapareurs pouvaient être dénoncés par leurs esclaves. Ceux qui mentaient sur la déclaration de leur fortune, le quensus, cela aussi pouvait être dénoncé par...
L'ISF ?
Exactement, par l'esclave. Et enfin, la fabrication de fausses monnaies qui apparaissait comme un danger important à l'époque républicaine. Bon. Ces trois registres demeurent évidemment sous l'Empire une préoccupation du législateur, mais viennent s'y ajouter une multiplicité d'autres griefs qui, là aussi, remontent au commencement de l'Empire. Lorsque, par exemple, avec la législation sur l'adultère d'Auguste, la justice a bien dû trouver les moyens pour savoir identifier les coupables d'un crime qui ne l'était pas jusqu'à présent, l'adultère. Et donc, là encore, ce sont les esclaves, les serviteurs, ceux qui dorment dans les couloirs des maisons à côté des chambres, qui peuvent informer le législateur à ce sujet. Ou encore, dans le domaine du rapt, bien plus tard, à l'époque de Constantin, le rapt devient une préoccupation majeure des empereurs et tous les moyens sont utilisés pour l'endiguer, car l'on suppose toujours que la femme qui a été enlevée est elle aussi coupable, autant que son ravisseur. Et par conséquent, ceux qui sont les plus à même de renseigner les pouvoirs publics sur l'identité de ceux qui ont été coupables de ce crime sont les esclaves. Donc on les torture, donc on attend leur dénonciation.
Cette attitude ne date pas seulement des Romains d'ailleurs, puisque dans l'Odyssée, il y a un moment effrayant quand Ulysse revient à Ithaque et qu'il constate que son chevrier, Mélantios, a armé les prétendants contre son maître. Et il le punit sans le moindre état d'âme, d'une façon épouvantable. Je cite Homère. « Mélantios fut sorti dans la cour. Au devant de l'entrée, on lui trancha d'abord d'un bronze sans pitié le nez et les oreilles. Puis son membre arraché fut jeté tout semblant à disputer aux chiens, et d'un cœur furieux, on lui coupa enfin et les mains et les pieds. » Conclusion, s'étant lavé ensuite et les pieds et les mains, on rentra vers Ulysse, l'œuvre était accompli. Fin de citation.
Je pense qu'on est là plus dans le registre de la violence et de la brutalité et qu'elle se prolonge évidemment à Rome, mais que la spécificité de la torture est qu'elle appartient au cadre judiciaire.
Vous voulez dire que quand on torture un esclave à Rome, on est dans le cadre judiciaire ?
Exactement. Je veux dire que la scène que vous venez de lire d'Ulysse infligeant ses sévices pourrait, à Rome, relever de la torture lorsqu'elle vise à établir des faits et du simple supplice, de la simple brutalité, lorsque le geste n'a pas cette fin d'établissement des faits.
Il est notable, en tout cas, que sous Claude et puis ensuite sous Adrien, évolue la violence domestique. Elle va vers sa fin, comme si l'État voulait, vous le disiez... s'assurer le monopole de ce type de torture, de violence, d'action sur les corps des esclaves.
La formule est sans doute rapide de monopole de la violence par l'État. Ici, je l'emploie pour faire bref. Disons qu'il est absolument manifeste au fil de la lecture des sources du 1er siècle jusqu'au 4e siècle que l'on assiste à un endiguement de la violence domestique, qu'il s'agisse des pleins pouvoirs exercés par le maître sur son esclave ou encore de la patria potestas, de la capacité du droit initial qu'avait le père de mettre à mort son fils ou un des siens dans la famille.
Cette capacité a évolué vers plus d'humanité ?
Je ne dirais pas vers plus d'humanité, je dirais qu'elle a évolué dans la mesure où elle a paru intolérable au législateur, dans la mesure, les textes sont très clairs là-dessus, où la personne privée ne doit pas recourir aux mêmes instruments de torture dans le cadre domestique que ceux qui sont employés par le tribunal. Et désormais, ce n'est que le représentant de l'empereur qui peut légitimement accomplir ce type d'acte.
À partir de ce deuxième ou troisième siècle après Jésus-Christ, le tournant, le maître peut être coupable d'homicide s'il a déchiré le corps, je cite, le corps de l'esclave par des châtiments publics en lui découpant les flancs par les empreintes des fauves, probablement les griffes en fer qui sont apparentées aux ongles des fauves et qui sont un instrument de torture apparemment courant, ou en lui brûlant les membres par l'application des feux, ou si les articulations fondues dégoulinant d'un sang noir mélangé de sani, il l'a forcé pour ainsi dire au milieu des tortures elles-mêmes, à laisser sa vie en employant une cruauté digne de barbares féroces. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'apparition, là, avec cette idée de cruauté, néanmoins d'un regard moral. Ce ne sont pas encore les droits de l'homme des Lumières, mais...
On en est bien loin. On en est bien loin, car le texte que vous venez de lire est un des plus abominables parmi les constitutions qui ont été rassemblées au commencement du 5e siècle par l'empereur Théodose dans son code théodosien. Il semble, a priori, que l'empereur, qui est l'auteur de cette loi, s'indigne des pratiques qualifiées de barbares du maître, mais au même moment, le même empereur justifie exactement le même type de violence lorsqu'elle se déroule devant le tribunal. Ce texte est intéressant car c'est la seule fois dans toute la législation où le mot barbare paraît s'appliquer, comme on le fait aujourd'hui et comme vous l'avez fait tout à l'heure au début de l'émission, à des comportements qui semblent relever d'une cruauté inhumaine.
Alors je voudrais que nous en venions pour finir dans cette conversation consacrée à la torture dans l'époque romaine, l'antiquité romaine, par comparaison avec aujourd'hui. Je voudrais que nous en venions à la question du rôle des religions, en particulier de l'arrivée du christianisme par rapport à ces pratiques. Et à propos des religions, on pense évidemment aux affrontements en Syrie aujourd'hui. Écoutez ce témoignage de Nadim Houri, qui est responsable de l'ONG Human Rights Watch, c'est-à-dire une ONG qui s'est donnée comme mission de considérer l'évolution des droits de l'homme, ou plutôt les violations de ceux-ci. C'est une interview sur France Inter le 4 juillet 2012.
On a documenté 20 types de torture aujourd'hui dans les centres de détention en Syrie, et ça varie de battre les gens avec des câbles, des bouts de tuyaux, jusqu'à l'électrocution, jusqu'à ce qu'on appelle le doulab. Le doulab, c'est en fait on met les détenus dans des pneus pour les immobiliser, et après les parties exposées, on va les frapper. Ce qu'on appelle le shabah. Shabah, ça veut dire le fantôme. En fait, on va suspendre la personne par ses bras du plafond. Donc les orteils vont à peine toucher le sol. On va le laisser pendant des heures et parfois pendant un jour entier. Et entre-temps, on va aussi peut-être les électrocuter, les frapper. On a trouvé des enfants de 11 ans qui ont été détenus et torturés dans ces centres. Des personnes qui ont plus de 75 ans, des femmes, des hommes. Tout le monde y passe. Les gens qui sortent de ces centres de torture sont pas simplement détruits physiquement, mais on est en train de leur prendre un peu leur humanité.
Est-ce que ces horreurs renvoient ou non Yann Rivière à l'Antiquité, l'Antiquité romaine ?
À l'évidence, je dirais qu'elle renvoie très précisément aux situations de guerre civile où alors tout est permis lorsque les clans s'affrontent. Je le répète, on sort à ce moment-là du contexte judiciaire où la torture trouve sa place. C'est-à-dire qu'en effet, ce que l'on vient d'entendre, on aurait pu le lire chez Dion Cassius à propos des proscriptions de la fin de la République où de tels faits ont pu se passer. Un point particulier dans ce témoignage, les enfants. Il se trouve que les Romains avaient une certaine réserve à l'égard de la torture des enfants. Les jurisconsultes en parlent, mais s'ils y consacrent quelques lignes, c'est que la question précisément se pose. S'il est interdit de torturer un pouer ou un enfant de moins de 7 ans, ou si l'on hésite à le faire pour un enfant entre 7 et 14 ans, c'est moins en raison de l'âge qui pourrait susciter une réserve que par le fait que le législateur s'inquiète du mensonge probable de l'enfant à l'issue de la torture.
Il y a des cas horribles où on a torturé et tué les enfants de ses adversaires. Tacite, par exemple, évoque avec une ironie macabre, une ironie très, très amère, le cas où Séjan, qui était un conseiller de Tibère et qui était tombé en disgrâce, a été exécuté, ou ses enfants l'ont été aussi dans un ensemble. Les auteurs de ce temps, dit-il, rapportent que, comme il semblait inouï d'infliger à une vierge, il s'agit de la petite fille, la peine capitale, le bourreau, prêt à lui passer le lacet fatal, la viola, puis ils furent étranglés, et à cet âge, c'est écrit Tacite, leurs corps furent jetés aux gémonies, c'est-à-dire au lieu où on exposait les cadavres des condamnés exécutés. Ils étaient ensuite jetés dans le Tibre.
Oui, la scène est tellement effroyable que Voltaire, qui était pourtant bien averti de tout ce que les humains étaient capables de faire, ne parvenait pas à y croire. Cette scène, cette séquence, a par ailleurs un intérêt historique dans l'histoire du droit, puisque les Romains respectaient jusqu'à présent le principe que l'on retrouve aussi dans la Bible, les fils ne paieront pas pour les fautes commises par leur père. C'est un principe reconnu par le droit romain, mais qui vole en éclats précisément au commencement de l'Empire, avec la prolifération du crime de lèse-majesté, où les enfants, contrairement à tous les principes reconnus par le droit romain, semblent alors hériter de la faute commise par leur père. Et ça s'aggravera encore dans l'Antiquité tardive.
Cette idée de lèse-majesté est décidément essentielle dans l'évolution de la torture au moment de l'Empire, tant les empereurs, les princes sont inquiets constamment d'éventuels coups d'État contre eux.
La lèse-majesté constitue une sorte de laboratoire de l'Inquisition. En quoi implique-t-elle plus particulièrement la torture ? C'est que chaque acte qui est interprété comme étant dirigé contre l'empereur suppose une complicité. Du coup, la torture devient alors le moyen de connaître les complices, Kanski, les acolytes, satellites, les alliés, ceux qui, d'un crime si grave qui n'appelle plus le respect de la procédure commune.
Et là, on trouverait sûrement des échos sinistres chez un certain nombre de dictateurs, de satrapes de notre époque contemporaine, en particulier autour de la Méditerranée.
Oui, absolument.
Alors, il y a le cas aussi des adolescents, car ils ont été souvent très, très turbulents et les Romains s'en sont préoccupés, en particulier quant à la manière dont il fallait traiter leur comportement déviant éventuellement.
Oui, la formule est d'Hérodien, l'adolescence est une mauvaise saison pleine de tempêtes. Et il parle de l'empereur Commode, on comprend en effet que la tempête s'est prolongée même au-delà de l'âge de l'adolescence. Oui.
Commode, c'est un empereur qui a régné.
C'est le fils de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui a régné à la fin du IIe siècle de notre ère, c'est le dernier des Antonins.
Il ne suffit pas d'être le fils d'un empereur philosophe pour bien se comporter.
De manière très paradoxale, mais ce serait le sujet d'une autre émission, l'empereur philosophe qui...
Vous avez envie d'être réinvité ?
Non, ce serait l'objet d'une autre discussion, mais le paradoxe est qu'en effet, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, suivant la formule la plus courante, a transgressé cette règle qui s'était établie de manière plus ou moins tacite de ne pas désigner comme successeur son fils, mais un personnage supposé être le meilleur.
Alors, regardons les conséquences de l'arrivée du christianisme. Est-ce que le christianisme a amené un adoucissement des mœurs du point de vue de la torture dont nous nous occupons ce matin, en particulier après avoir subi eux-mêmes de nombreuses tortures? Qu'en est-il, en somme, Yann Rivière?
Je commencerai par le second point, celui des persécutions. Il est absolument évident qu'avec les persécutions et avec cette littérature martyriale, apparaît une nouvelle forme de pensée où la torture occupe une place de premier rang. Persécutions sont connues en grande partie grâce à une documentation, les actes des martyrs, qui sont pour certains d'entre eux des pièces forgées tardivement, mais pour d'autres des actes de procès, des procès-verbaux. On a là des documents de première main sur le fonctionnement des tribunaux. Or, en quoi consistent-ils ces actes des martyrs la plupart du temps ? En un face-à-face, une joute entre le juge inquisiteur qui conduit son enquête et l'athlète du Christ face à lui, qui revendique le nom chrétien et qui, face à la pression croissante de la torture, ne cède pas pour gagner le martyr.
Donc torture et martyr sont...
indissociablement liés, et les actes des martyrs sont un observatoire terrifiant parfois de ces pratiques et amènent à réfléchir sur la raison pour laquelle elles viennent au devant de la scène.
Il y a un roman fameux d'Henryk Sienkiewicz qui remonte à 1905, Covadis, qui a été à l'origine d'un film américain, un grand péplum, réalisé par Mervyn LeRoy en 1951. C'est l'histoire de Néron et des chrétiens. Après l'incendie de Rome, en voici un extrait.
Néron, mon bien-aimé, tu as raison. Offre au peuple ce qu'il veut. Offre-lui un bain de sang, une vengeance. Non point une victime, mais des centaines, des milliers.
Des victimes? Quelles victimes?
Des gens qui vénèrent un dieu plus grand que toi à les en croire. Ils sont les ennemis de la race humaine et les tiens aussi.
De qui veux-tu parler?
Ils se moquent de nos temples et de nos dieux. Leurs prophètes annoncent que le monde finira au milieu des flammes. Eh bien, Néron, fais que leurs prophéties s'accomplissent. Que ce soit leur fin. Ils se donnent le nom de chrétiens.
L'impératrice parle d'or, César. Le peuple hait ces chrétiens. Ce sont les ennemis de Rome et de l'État.
Le peuple crie vengeance, Néron. Assouvit sa colère.
Une tablette, Phaon. Le peuple aura d'ici peu sa vengeance.
Dans les présentes, je proclame que l'incendie qui a ravagé notre métropole bien-aimée est l'œuvre d'une secte de fanatiques qui s'intitule
chrétiens. Ils ont voulu faire croire que c'est moi, Néron, qui ai mis le feu à Rome. J'entends exterminer ces criminels d'une manière proportionnée à l'énormité de leurs crimes. Je leur réserve un châtiment particulier, lequel inspirera la terreur aux êtres malfaisants qui, de par le monde ou de par l'Empire, chercheraient à vous nuire, à nuire à notre ville de Rome, ou également à l'empereur qui vous aime.
L'empereur qui vous aime, drôle d'amour.
Oui, la personnalité de Néron est complexe. L'épisode lui-même de l'incendie et de la persécution qui a suivi, persécution isolée, est assez à part dans le dossier que nous avons commencé à évoquer. Deux brefs commentaires. Nous sommes là encore face à une situation de violence qui ne relève pas de la torture, de violence extrême, puisque les chrétiens ont été pourchassés dans toute la ville de Rome, mis à mort, et certains d'entre eux ont fini comme torches vivantes, suivant les méthodes que décrivait Sénèque dans la page que vous évoquiez.
C'est plutôt la Saint-Barthélemy.
Oui, on pourrait comparer à l'époque moderne avec un épisode tel que celui de la Saint-Barthélemy. Une parole du film, de la traduction du film, « Exterminer ces criminels ». Je ne pense pas qu'à un seul instant, les Romains aient eu l'idée, quand on prononce ces mots, c'est important de faire la distinction, d'exterminer les chrétiens. Ils ont voulu plutôt les faire renoncer à leur foi, ce qui est tout différent, et en leur demandant de sacrifier pour l'empereur et pour les dieux.
C'est l'ambivalence de la torture. Est-ce qu'on doit les faire avouer leur foi que l'on blâme, ou est-ce qu'on doit les amener par la torture à être des apostats?
C'est Tertullien, à la fin du IIe siècle de notre ère, Tertullien qui pose la question et qui tente de montrer aux païens l'absurdité de la persécution en leur disant que, jusqu'à présent, de très bonnes lois, donc il les reconnaît lui-même comme bonnes, permettent de torturer des criminels pour les faire avouer, et que ces lois sont maintenant détournées pour les chrétiens pour leur faire apostasier, pour obtenir un déni.
Tertullien était lui-même chrétien, même s'il a fini hérétique.
Exactement, Montaniste. Il était lui-même chrétien, mais à aucun moment dans ses traités, on ne trouve de réflexion selon laquelle la torture en soi lèse un droit humain. C'est uniquement lorsqu'elle est appliquée aux chrétiens.
Après tout, Saint-Louis, beaucoup plus tard, dira qu'on peut utiliser la torture contre les personnes malfamées.
Oui, la pensée est la même sans doute pour les Romains. Ce sont les criminels. Toute la question qui se pose est de savoir comment définit-on le crime.
Donc, Yann Rivière, il serait anachronique d'imaginer que dans ces premières années de l'ère chrétienne, y compris lorsque, avec Constantin, les empereurs sont devenus eux-mêmes chrétiens, d'imaginer que cela a correspondu à un adoucissement des pratiques, en particulier pour ce qui touche à la torture.
On ne peut pas sauter par-dessus l'esprit de son temps. Les chrétiens de l'Antiquité appartiennent à leur époque. Il est certain que par la suite, au siècle suivant, le message de l'Évangile a pu constituer et accompagner un mouvement à caractère humaniste. À l'époque de Constantin, il n'en est rien. Si l'on examine l'ensemble de sa législation qui est la mieux connue, il y a peut-être une loi, en effet, qui est inspirée par l'Ancien Testament, cette loi qui interdit désormais de marquer au visage les condamnés au ludus, à l'école de gladiateurs. L'empereur demande à ce moment-là qu'il ne soit pas tatoué sur le visage, mais sur une autre partie du corps, car le visage est fait à la ressemblance de la beauté céleste, dit le texte.
C'est l'Ancien Testament, mais c'est plutôt du côté du Nouveau Testament qu'on aurait attendu des inspirations vers moins de cruauté.
On ne les rencontre pas du tout, me semble-t-il, dans la législation du IVe siècle de notre ère. Et c'est précisément au IVe siècle que s'opère un basculement, puisque l'Empire est désormais chrétien et que le législateur s'emploie avec les mêmes méthodes à lutter contre les hérétiques.
Et par conséquent, que la torture garde toute sa place, et même grandissante du côté des chrétiens, pour forcer des conversions à leur profit.
Concernant les persécutions, lorsqu'on lit en effet les horreurs qui ont été subies à l'occasion des persécutions d'État, notamment celles qui débutent au milieu du IIIe siècle, il aurait été possible d'imaginer que par la suite, au siècle suivant, les chrétiens, en souvenir des martyrs précisément, et prouve ou manifeste quelques réticences à l'égard des moyens de torture, d'enfermement tels que la prison, de mise à mort.
Il n'a pas du tout.
Il n'a pas été du tout le cas, et seule une forme de mise à mort a été interdite, la crucifixion, on devine pourquoi.
Donc la vitalité aujourd'hui de l'ACAT, cette association qui s'appelle Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, elle aurait été parfaitement anachronique à ce moment-là.
Je pense qu'il s'agit d'un anachronisme. Et c'est pourquoi j'ai pris le soin de mettre en exergue d'un travail concernant la législation de Constantin, les gouverneurs chrétiens du IVe siècle qui préviennent les prévenus que ce n'est pas du tout en raison de la conversion au christianisme de l'empereur qu'ils seront désormais exemples de torture, donc confronter cette citation à celle de l'archevêque d'Alger au commencement de la guerre d'Algérie, qui explique, mot pour mot, si je me souviens bien de la citation,
Monseigneur Duval,
que la torture lèse un droit naturel. Ces mots auraient été impossibles de la part d'un évêque de Carthage au IVe siècle après notre ère.
Et bien sur cette précaution affirmée contre l'anachronisme dont je vous sais gré, Yann Rivière, nous allons clore notre conversation dont je vous remercie. Je voudrais redonner le titre de votre livre majeur, Le cachot et les fers, paru chez Belin en 2004, avec comme sous-titre Détention et coercition à Rome. Vous nous avez donné aussi un livre très important sur les délateurs sous l'Empire romain. Je vous avais invité d'ailleurs à ce propos.
J'avais dû avoir l'occasion de dire que là encore, c'est Auguste et son successeur Tibère qui sont les inventeurs d'une forme de procédure, l'inquisitio, la procédure d'enquête, qui fait appel désormais à des dénonciateurs extérieurs au tribunal et non plus à des accusateurs qui s'affrontent entre eux devant un jury.
Quitte à ce qu'éventuellement, si on doute de leurs propos, ils soient eux-mêmes torturés.
La législation de la fin de l'Antiquité devient terrifiante car non seulement l'accusé est torturé, mais le délateur, le dénonciateur l'est aussi car on suppose qu'il a pu obtenir ces informations en étant infiltré dans des milieux où se cachent d'autres coupables. Donc, à la fin de l'Antiquité, certaines lois prescrivent d'emprisonner et l'accusateur et l'accusé et de les soumettre à la torture pour eruere veritatem, obtenir la vérité, l'arracher.
On finit par se dire, à vous entendre, qu'il y avait une grande possibilité statistique pour chaque citoyen romain de se trouver à un moment donné torturé.
Chez un auteur tardif comme Ammien Marcellin, on s'en rend bien compte, lorsqu'une première accusation est lancée à Rome, c'est toute la ville qui est dans l'effroi, ou lorsqu'une première accusation est lancée à Antioche, c'est toute la province de Syrie qui est dans l'effroi.
Je citerai également le livre important de Marie-Françoise Baslaise, « La persécution dans l'Antiquité, victimes, héros et martyrs », une publication de 2007 chez Fayard, que nous avons également utilisé pour préparer cette émission, et puis un recueil qui s'appelle « Torturé à l'Antique, supplices, peines et châtiments en Grèce et à Rome ». C'est aux éditions des Belles Lettres et paru tout récemment en 2013. Un ensemble de citations qui font parfois dresser les cheveux sur la tête. Vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et bien sûr, vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission. La semaine prochaine, je vous emmènerai, football oblige, je vous emmènerai au Brésil à l'occasion de la Coupe du Monde. Nous essaierons de voir avec Yves Saint-Jour ce que le football précisément permet de comprendre du Brésil aujourd'hui. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Cédric Chatelus et Émilie Guilloiseau, et pour les archivina, Marie Jarosse. Dans quelques instants, Dominique Rousset pour l'économie en question.